Il y avait du soccer au Centre Nutrilait. Par petits groupes, les joueurs de l'Impact ont pu s'entraîner. Voilà une excellente nouvelle. On en parle avec le collègue Jérémy Filosa. Salut, Philo!
Salut!
Bon, hey, écoute, ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, les gars, ça, ouais, peuvent être sur le terrain un peu. Là, on commence à parler de quelque chose d'intéressant, là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est plus que juste des entraînements individuels. On pouvait s'entraîner en groupe de 6. En fait, il fallait quand même que le terrain, les demi-terrains soient subdivisés en 6. Donc, il fallait que tout le monde reste dans sa section. Mais au moins, les gars peuvent se faire des passes. Les gars peuvent commencer à tirer au filet. Les gars peuvent commencer à utiliser l'équipement autre que simplement leurs crampons. On n'avait pas grand-chose là, du côté des entraînements individuels, là, à part d'avoir accès au Centre Nutrilait, pouvoir faire un peu de jogging, de la course, de la remise en forme. C'était propre, t'sais, juste ça. Mais là, on commence à retoucher au ballon. Puis c'est encore des entraînements qui demeurent optionnels. Hein, faut comprendre, les joueurs ne sont pas obligés de se présenter au Centre Nutrilait pour s'entraîner, mais la majorité d'entre eux le font. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ils ont quand même... Il y a des équipes de la MLS comme Kansas City aujourd'hui qui ont déjà obtenu le feu vert pour les entraînements en équipe. Donc, ça, c'est la prochaine étape là, pour l'Impact de Montréal.
Est-ce que c'est un avantage, selon toi, d'être capable de commencer les entraînements en équipe déjà?
Ben, à partir du moment où maintenant on connaît un peu ce qui va arriver, oui. Parce qu'on sait que de la façon dont la MLS veut que ça fonctionne, c'est que les équipes, par exemple, je vais donner l'exemple de Kansas City qui ont obtenu le feu vert, je crois qu'Atlanta aussi l'a obtenu, de s'entraîner en équipe, ils peuvent rester dans leur ville jusqu'à quelques jours seulement avant le début du tournoi qui normalement devrait débuter dans le bout du 9 juillet. Si tu n'as pas l'autorisation de la santé publique dans ta ville pour t'entraîner en équipe, ben la MLS va demander à ces équipes-là à partir du 24 juin de quitter leur ville et d'aller s'entraîner à Orlando pendant 2 semaines en attendant le début du tournoi. Donc ça veut dire que les villes, si par exemple Montréal n'obtient pas l'autorisation, ben ça veut dire que les joueurs de l'Impact vont être loin de leur famille 2 semaines de plus qu'une équipe comme Kansas City qui, elle, va pouvoir rester à domicile jusqu'à quelques jours seulement avant le début du tournoi. Donc, quand on regarde 9 juillet, ça veut dire que c'est approximativement dans un mois. Si tu es capable de commencer à t'entraîner en équipe tout de suite, avec des entraîneurs, avec de la stratégie, moi, je pense que oui, là, c'est définitivement un avantage.
Jérémy, est-ce que tu sais les joueurs qui étaient présents aujourd'hui?
Je crois qu'ils étaient tous là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on divise tout le monde était là. Groupe. Exactement, mais il y a des heures différentes dépendant des joueurs. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était des entraînements individuels. Maintenant, c'est des entraînements 6 par 6, mais on trouve dans la matinée, dans la journée, assez de temps pour que tout le monde puisse s'entraîner.
Et le coach était là également, Thierry Henry?
Le coach est là, mais il doit garder ses distances. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a un corridor qui subdivise les 4 terrains au Centre Nutrilait. Il y a 2 terrains de gazon naturel, 2 terrains de gazon synthétique. Et les entraîneurs, selon ce que je comprends, doivent demeurer à l'intérieur de ces couloirs-là. Ne peuvent pas entrer sur le terrain, en tout cas pas pour l'instant, là.
OK, puis il n'y a pas de journaliste aujourd'hui.
Non, en fait, on n'a pas encore obtenu le feu vert pour permettre aux journalistes. Puis tu sais, je sais même pas comment ça va fonctionner. Quand on va vraiment donner le feu vert, est-ce qu'on va pouvoir assister aux entraînements sur place? Comment on va procéder pour les entrevues après les entraînements? Je ne suis pas certain parce que normalement, bon, pour les gens qui ne le savent pas, on est tous réunis très près l'un de l'autre autour d'un joueur ou d'un entraîneur pour effectuer les entrevues. Donc ça risque de changer. Et en fait, on ne sait même pas, parce que les gens m'écrivent déjà sur les médias sociaux, est-ce que les matchs vont être à la radio? C'est sûr que nous, on va s'informer, on va travailler là-dessus. On va essayer de trouver des solutions, mais je ne suis pas certain au moment où on se parle si la MLS va permettre à toutes les équipes de diffusion de tous les clubs de se diriger à Orlando, ou est-ce que ESPN qui va être sur place va fournir à tout le monde des images, ouais, et il va falloir faire une description sur un écran. J'en ai aucune idée, donc pour ce qui est de tout ça, on est un peu dans le néant, là.
OK, mais d'une façon, si on pense un peu logique, ce serait peut-être plus sécuritaire parce que je me souviens d'avoir une conversation avec Martin McGuire qui se posait la même chose, la même question oui. pour la Ligue nationale de hockey.
Exact.
Il est possible que ça soit ça, de la description en studio pour avec l'image pour éviter d'avoir plein de gens dans l'environnement du jeu en tant que tel.
Oui, parce que imaginez-vous, là, je vais vous donner l'exemple de l'Impact de Montréal. Ben, l'Impact de Montréal, facilement, lors d'un jour d'un match, juste pour Montréal, ben on a nous le 98.5, on a notre une station anglophone de radio TSN qui est aussi diffuseur, il y a TVA Sport qui est là et il y a souvent aussi TSN qui diffuse à la télé. Fait que t'as quatre équipes de diffusion qui sont là juste pour l'équipe locale et ensuite de ça il y a pour l'équipe adverse aussi. Donc comme tu viens de le mentionner, ça se peut que ça commence à faire pas mal de monde pour juste un match. Et là, faut comprendre que les cabines, c'est pas illimité là. On parle d'un, tu sais, c'est un centre, c'est pas un endroit où où t'as un stade avec, je sais pas moi, 7-8 cabines de description, 4 de télé, 4 de radio. C'est pas ça là. On est dans un petit terrain de 5000 places. Peut-être qu'il y a 2 cabines de description au total. Là, faudrait que entre chaque match, on défasse les on remonte l'équipement pour la nouvelle équipe, désinfecter les studios. Je pense que ce serait très compliqué. Donc, d'après moi, la façon dont ça va fonctionner, c'est que ESPN, qui va s'occuper de tout ce qui va se passer là-bas, va être responsable d'envoyer le signal à tous les diffuseurs. Et c'est pas impossible là, qu'on soit obligé de faire ça sur écran témoin.
Ouais, clairement. Et il faut comprendre, c'est aucun spectateur ne seront présents là-bas.
Exact.
On veut présenter le produit. Je me posais juste la question, lorsqu'on voudra reprendre par la suite, là, parce qu'il y aura des matchs qui peuvent se disputer jusqu'au mois de décembre, si j'ai bien
exact.
Ça. C'est ça que j'ai compris. Parfait, numéro un. Mois de décembre, est-ce qu'on vise avec des spectateurs?
Écoute, ce qu'on espère, oui, c'est de pouvoir revenir à l'automne avec au moins un certain nombre de spectateurs. Puis écoute, si la tendance se maintient et qu'il n'y a pas de deuxième vague, ben je pense qu'on peut être quand même optimiste de penser que d'ici le mois de septembre, par exemple, on pourrait permettre à un certain nombre de spectateurs avec distanciation d'assister à des matchs. Ce serait pas impossible. Je pense que c'est ce que la MLS viserait, mais ils reconnaissent aussi que c'est pas impossible qu'on soit obligé de poursuivre la saison à huis clos. Si jamais il y a une deuxième vague ou même la pandémie commence à revenir ou quoi que ce soit, c'est pas impossible. Don Garber a dit que c'est loin d'être le scénario désiré, mais on sait que c'est une possibilité qu'on va être obligé d'en envisager éventuellement. Mais après le tournoi, qui devrait se terminer approximativement le 7 août, il y aura une petite pause, peut-être une semaine ou deux, et ensuite de ça, ben, on voudrait relancer les activités de la saison avec 16 autres matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires pour couronner un champion de la MLS Cup, là.
Jérémy, dis-moi donc, ton son de cloche que tu entends du côté de l'organisation de l'Impact, je vais peser mes mots. Est-ce qu'on trouve ça lourd comme procédure présentement de distanciation? Quand j'entends le premier ministre après-midi dire, tu sais, il y a des manifestations, je pouvais pas parce que je pouvais pas demander aux gens, tu sais, allez pas à une manifestation parce que c'est important. On
ouais.
sait qu'il peut y avoir une certaine problématique. Et de l'autre côté, on est extrêmement sévère et non pointilleux sur des petits détails. Est-ce qu'on trouve ça lourd du côté de l'Impact?
Ben, je pense que on sait que malheureusement, on n'a pas le choix. C'est ça l'affaire. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a eu de la frustration lorsqu'on attendait la réouverture du centre Nutrilait pour les entraînements individuels. Ça a pris un petit peu plus de temps que ce que l'on attendait. Et ça, je pense que oui, il y a eu de la frustration de la part de l'Impact de Montréal. Et dans un certain sens, je peux les comprendre. C'est sûr que là, tu sais, si on regarde par exemple les sports mineurs, le soccer, le baseball vont reprendre avec des entraînements en équipe, même s'il y aura une certaine distanciation. Là, tu te dis, bon, ben écoute, eux autres, là, c'est une ligue professionnelle où les joueurs sont payés pour ça. On a des médecins sur place, des thérapeutes. On a toutes les mesures qu'on a besoin d'avoir pour garder les gars en santé. Pourquoi ne pas leur permettre? Surtout que, entre toi et moi, là, selon ce que je comprends, un ballon de soccer, pied à pied, je te passe le ballon, tu me passes le ballon, les chances que tu me donnes le virus ou que je te le donne, c'est pratiquement inexistant. C'est sûr qu'à partir du moment où tu ramasses le ballon avec tes mains, par exemple, pour faire une touche sur la ligne de touche, ben là, il y a peut-être un risque de contagion là si tu touches le visage ou quoi que ce soit. Mais tant que le ballon reste au sol puis on se fait des passes avec les pieds, je veux dire, le risque est très, très, très minime. Et en plus, on est dehors. Je veux dire, là, on est sur le point de permettre à des gens de se rassembler à l'intérieur, à 10 personnes. Fait que là, tu vas me dire, écoute, un club de soccer, là, pour un départ d'un match, là, c'est 11. C'est 11, puis ils sont dehors. Ouh, si on est 10 en dedans, puis c'est correct, mais là, on est 11 dehors, et c'est pas correct. C'est
mais
sûr que...
Jérémy, on y va tellement à tâtons présentement. Là. C'est tellement essai-erreur. On voit si c'est problème. Et sais-tu quoi? Moi, je prends par exemple le plan de retour au jeu de Baseball Québec. Écoute, c'est un processus qui est très, très, très lourd, mais qu'on n'avait pas le choix de faire de cette façon-là. On prend tellement aucune chance que cette façon-là, si on est capable de sauter des étapes, eh bien, on va sauter des étapes en fonction de la santé publique. Mais t'es mieux de faire ça plus compliqué, puis de sauter des étapes que faire ça à va comme je te pousse, puis dire, oups, finalement, on s'est trompé, là.
Écoute, je suis tellement déchiré par rapport à tout ça, parce que je me dis... D'un côté, exactement ce que tu viens de dire, faisons attention, n'oublions pas la distanciation sociale, porter un masque et tout ça. Je vois des entreprises qui font des pieds et des mains présentement et qui sortent de l'argent qu'ils n'ont pas pour s'assurer que dans leur business à eux, ils soient bien protégés. Ils ont perdu de l'argent, mais ils creusent quand même dans le fond de leur poche pour donner un sentiment de sécurité à leur clientèle. Puis là, je me dis, ouais, mais si dans 2 mois, c'est fini, là, tu te dis, hey, on a fait tout ça, on a investi tout cet argent-là pour 2 mois, puis après ça, on n'a plus de besoin.
Ouais.
Tu sais, fait que
mais de l'autre côté, c'est si tu le fais pas, et il y a une éclosion dans ta business ou dans ton club, dans ton c'est organisation. Sûr. Tu veux pas ça, là?
Ben, regarde, je vais juste te le dire. Là. Tu me parles de baseball. Là. Tout à l'heure, j'ai reçu le document de Baseball Québec que je dois signer pour que mon fils puisse aller jouer. Donc, je dois signer pour dire que si jamais, bon, il contracte le virus, je peux pas poursuivre Baseball Québec ou quoi que ce soit. Puis juste ça... Moi, je veux dire, depuis qu'ils ont dit on donne le feu vert, moi, j'ai dit, il s'en va jouer, c'est sûr.
Mm-hmm.
Mais quand j'ai ce document-là dans mes mains, je suis comme, ouais.
Tu repenses, hein?
c'est vrai. OK, s'ils se protègent de même en faisant signer des papiers, c'est parce qu'ils savent pertinemment que ça pourrait arriver, hein? Fait que, tu sais, il y a toujours ce maudit risque-là, mais à un certain moment donné aussi, il faut que... T'sais, il faut que les enfants puissent recommencer à sortir dehors
exact.
Parce que ça n'a pas de bon sens. Là,
exact. Donc... Comme on dit souvent, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Fait que
c'est
mieux, exactement. Mieux vaut prendre toutes les précautions et faire en sorte que ça ne nous revienne pas en plein visage par la suite. En terminant, mon cher ami Jérémy, je veux que tu me parles du Canadien Alphonso Davies. On l'a vu très rapide. Les gens, on apprécie son talent du côté du Bayern de Munich.
Ouais.
Mais il vaut quelques pesos présentement, notre ami?
Ben écoute, il vient tout juste de signer un nouveau contrat avec le Bayern de Munich. Il était déjà sous contrat. Et Munich lui a offert une prolongation de contrat parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a un joyau entre les mains. On a une perle rare. Un joueur canadien, ça cogne pas, disons, à la porte à tous les jours. Un joueur de cette trempe-là qui arrive au plus haut niveau du soccer.
Tout jeune.
Tout jeune, exactement, 21 ans seulement. Et tu dis... Écoute, là, c'est incroyable. C'est incroyable ce que ce gars-là va être capable de nous amener. Puis déjà, il y en a qui disent, ben, il restera pas au Bayern éternellement. Il y a FC Barcelone qui va venir le chercher ou il y a la Juventus qui va venir l'acheter ou je sais pas quoi. Mais c'est certain qu'un gars comme ça, puis je suis content que dans un certain sens, la Bundesliga ait relancé ses activités avant les autres ligues parce que ça a permis... à certains réseaux, par exemple comme Sportsnet, de mettre de l'avant la Bundesliga et de nous montrer Alphonso Davies, un des meilleurs athlètes, tout sport confondu, au Canada, et de le mettre sur une plateforme. Je suis bien content de voir que quand je reçois une alerte de RDS, quand Alphonso Davies marque un but, c'est incroyable, parce qu'il y a un mois, là, je veux dire, le gars, il n'existait pas. On n'en parlait pas, personne ne savait qui c'était, et pourtant, je veux dire, c'est un des plus beaux bijoux qu'on a eu au Canada. C'est un gars qui va gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais quand ils l'ont signé le mois dernier, je lisais les commentaires du directeur technique, de l'entraîneur, du propriétaire. Tout le monde était unanime pour dire, le gars, là, il a la tête à la bonne place, il est posé, il fait ce qu'il a à faire, il se présente de bonne heure, il donne l'exemple, il est toujours de bonne humeur. Donc, le gars, il fait tout, à plus d'avoir du talent, pour s'assurer de monter au plus haut niveau. Puis, écoute, j'écoutais sur un podcast mon collègue Arcadio Marcuzzi, qui a bien hâte, lui aussi, de retrouver le micro, le travail, et qui disait « Alphonso Davies a le potentiel d'être un Michael Jordan ».
Quand même.
Michael banal, Jordan. Parce que c'est un gars qui est tellement attrayant, bon sur les médias sociaux. Il fait tout ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent voir d'un athlète professionnel. Il performe sur le terrain. Donc, Alphonso Davies va devenir un des plus grands noms du soccer en Amérique du Nord, et de savoir qu'il va jouer avec, il joue avec le Canada, aux côtés des nôtres, nos Québécois, Samuel Piette, Maxime Crépeau et compagnie. C'est drôlement incroyable.
Et là, juste pour mentionner aux gens pourquoi on parle de ça, c'est qu'il y a une liste aujourd'hui qui est sortie sur sa valeur. Mm-hmm. Il fait partie du top 10, c'est bien ça? Des joueurs avec la plus grande valeur, c'est ça?
Oui, parce que quand tu performes de cette façon-là à 19 ans, tout le monde se dit, écoute, la marge de progression est tellement grande pour un gars qui arrive avec le Bayern de Munich, puis tu vas me dire, oui, mais le Bayern, c'est un club pacté. C'est le meilleur club en Allemagne. Les autres clubs font pas le poids, puis ils profitent de ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, d'arriver à un niveau aussi haut dans un des pays les plus performants dans le monde du soccer et être aussi bon, aussi jeune, ça fait en sorte. J'ai dit 21 tantôt, mais je crois qu'il y a 19 ans.
Il n'y a pas
21.
Ça, c'est toi le pro.
Tu sais, ça nous démontre. C'est là que ta valeur augmente, parce que ton potentiel de revente, et n'oublions pas, les Whitecaps de Vancouver ont gardé une portion, je me souviens pas exactement c'est combien, je pense que c'est 20% ou quelque chose comme ça, d'une revente éventuelle. Donc si Alphonso Davies
fait de l'argent, ça.
Éventuellement est revendu pour 100 millions, ben il y a 20 millions qui s'en va dans les poches des Whitecaps.
Bonne chose, c'est bien fait. Et ça, ça s'appelle bien placer son investissement. Exactement. Jérémy, toujours un plaisir. Et puis, sois pas inquiète pour le baseball de ton gars. Là, ça va bien aller. Il n'y aura pas de problème, je suis convaincu.
Ben, j'espère. J'ai tellement hâte de le voir sur le terrain. Là. Ça me manque vraiment.
Ça, je pense que ça manque à plusieurs personnes. Merci, Philo.
Salut.